Parcours de coach.
Aujourd'hui, dans Parcours de coach, je vous propose de voyager en Italie pour faire le point sur la situation du coaching chez nos voisins transalpins. Pour cela, je me suis entretenu par téléphone avec Alessandro Pegoraro, président d'EMCC Italia depuis mai 2019. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, découvrez l'itinéraire d'un Italien francophone qui parle de sa pratique du coaching et de la supervision avec humour, sincérité et passion.
Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching.
Alessandro, bonjour.
Bonjour David.
Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard, lorsque tu avais 7 ans?
Oui, je rêvais de conduire des camions.
Tu avais un type de camion particulier qui te faisait rêver?
Je me rappelle pas le type de camion, mais c'était des camions qui étaient ce qu'on appelle des TIR, transports internationaux routiers, donc des grands camions. J'étais fasciné par cette conduite puissante. On est dans les premières années 60. Il n'y avait pas trop d'aide hydraulique à la conduite. Donc les camionnistes étaient des costauds, étaient des hommes forts. Ils se tuaient parce qu'il y avait pas mal de camions aussi qui avaient le moteur à l'intérieur de la cabine. Il faisait chaud, ça puait le gasoil, etc., etc. Mais moi, j'adorais ça. Ça me rendait fou.
Est-ce que tu peux nous partager le contexte familial, la profession de tes parents, par exemple?
Ah oui, le contexte familial était absolument intégré dans le transport international routier. Parce que papa était professeur de latin et grec, et maman était professeur de latin, tous les deux au lycée. Donc tu peux imaginer la joie qu'ils avaient en m'entendant parler de bagnoles, de camions, de motos, etc. J'aimais la mécanique, j'aimais tous des trucs qui n'étaient pas exactement, disons, le côté professionnel de la famille, quoi.
Quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant?
J'étais marrant, un peu casse-pied parce que je posais toujours des questions. Mais aussi sympa parce que j'écoutais beaucoup. J'ai appris énormément de trucs quand j'avais 7 ans. Je me rappelle une quantité de choses que j'apprenais souvent en écoutant au-delà du mur. Parce que mes parents avaient beaucoup d'amis qui étaient des personnes, je ne veux pas dire importantes du point de vue du pouvoir, mais sûrement des personnes professionnellement très, très qualifiées. Et donc, ils parlaient de leur métier. Et puis, moi, c'était plus rigolo qu'aller au cinéma.
Tu avais cet intérêt pour les discussions avec les grandes personnes, du coup?
Oui, c'était les discussions entre les grandes personnes. Moi, naturellement, j'écoutais seulement, quand on me laissait.
Alessandro, tu es italien, tu es président de MCC Italie. Qu'est-ce qui fait que tu as un accent français aussi parfait?
Merci, David. En réalité, moi, j'ai fait, à partir de la 10e, toutes mes études en français. Pas toutes en France, mais toutes à l'école française. Mon bac, je l'ai passé à Grenoble, ma dernière ville française. Entre-temps, j'ai habité 3 ans et demi à Strasbourg et puis 3 ans à Helsinki en Finlande, bien que ma première ville a été, quand j'avais 6 ans, Budapest en 62. Là, il y avait une école anglaise, donc j'ai appris l'anglais que j'ai oublié et pour apprendre le français en 9e.
Très jeune, tu as été globe-trotteur.
Oui, c'est pour ça que je te dis, il y avait quand même une intégration avec les transports internationaux routiers, parce que nous, tous les 3 ans, 3 ans et demi, on déménageait.
Est-ce que tu peux nous partager les études que tu as suivies?
Au lycée, je sais pas si c'est encore comme ça, à la fin de la 3e, quand tu faisais ton BEPC, je fréquentais un collège catholique appelé Rondeau Montfleury à Grenoble. Et à ce temps-là, l'élite, c'était les maths et la science. Donc, quand fallait choisir une section, tu ne choisissais pas. C'est l'école qui choisissait pour toi. Donc les bons passaient en C, qui était la classe d'études qui te préparait pour le bac C, aussi les grandes écoles, HEC, etc., etc. Et puis le reste terminait en A. Il y avait aussi le B, le D, etc. Mais enfin, les deux parcours plus importants étaient choisis par quelqu'un d'autre. Alors moi, maths, très mal. Aucun intérêt, aucun effort, m'a dit une fois ma prof de maths. Et donc, j'ai été passé d'autorité en A. Et là, j'ai fait une traditionnelle suite des études, disons, sans grec, mais avec le latin. Ce qu'on appelait A4.
Et par la suite?
Alors, par la suite, je suis venu en Italie. Et là, j'ai commencé avec une grande erreur. Je me suis inscrit à la faculté de droit. En 6 mois, j'ai compris que c'était pas pour moi et je suis passé ce que j'aurais dû faire tout de suite, c'est-à-dire philo. Là, j'ai fait une maîtrise en philosophie avec une orientation en théologie. Ce que j'aime bien raconter, c'est que j'avais aucune intention de devenir un prêtre ni de faire quelque chose de particulier grâce à la théologie. C'est tout simplement que dans l'université que je fréquentais à l'époque, qui s'appelle l'Université catholique de Milan, il y avait un monde extrêmement rasoir dans toutes les sous-disciplines de la philo. Par contre, dans le département de théologie et de ce qu'on appelait sciences religieuses à cette époque, là, c'était marrant. Il y avait plein de gars jeunes qui étaient passionnés, conduits avec une méthode managériale très innovative, coup de pied aux fesses, par deux ou trois théologues un peu anciens, mais extrêmement fascinants.
Quand on avait fait notre pré-interview, tu m'avais dit aussi que ça t'avait permis d'approcher la réflexion sur les organisations.
Oui, alors ça a été après. Parce que à la fin, je devais faire ma thèse de maîtrise. Je sais pas, à ce moment-là, je suis retombé amoureux pour l'histoire contemporaine. Et donc, j'ai fait une thèse sur le syndicat. En France, on l'aurait appelé la CFDT, donc le syndicat important non communiste, non marxiste. Et là, ça m'a donné un nouvel essor sur lequel j'ai travaillé un peu.
Quelle a été ta première partie de carrière professionnelle ?
Alors, ma première carrière professionnelle a été un coup de pot. Parce qu'en tant qu'étudiant, je n'avais pas de pognon, je ne voulais pas demander du pognon à mes parents, enfin tous les trucs habituels. Et j'ai eu du pot parce que je suis devenu professeur de conversation française dans un lycée italien. Et à 21 ans, je me suis trouvé avec des responsabilités, parce que le collège était un collège religieux seulement de filles et un collège de nonnes. Mais ça a été extraordinaire. J'avais des élèves de 15 à 18 ans. Moi, j'en avais 21. J'ai eu pas mal de problèmes à me construire une posture, si tu veux. J'étais probablement trop jeune, mais ça m'a aidé beaucoup à comprendre ce que les autres attendaient de moi, plus que ce que je voulais faire moi. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Et en même temps, j'ai commencé un truc que j'avais commencé à l'université, toujours pour gagner un peu d'argent. À l'université, on m'appelait le jukebox. Parce que n'ayant jamais écrit en italien, je sais pas pourquoi, j'avais une incroyable facilité à écrire n'importe quoi. Tu sais, le jukebox, tu mets la monnaie et la chanson sort. Et j'ai commencé à travailler pour des petits journaux, puis pour des bureaux de presse, puis pour des sociétés de bureaux de presse. J'écrivais n'importe quoi. Il y avait une seule condition pour moi. Et ça, c'est intéressant pour mon métier aujourd'hui. Je ne devais pas écrire de moi-même.
T'écrivais sur un autre sujet ou à la place de quelqu'un, c'est ça?
Voilà. Et je dois dire que écrire à la place de quelqu'un était naturellement le mieux payé. Et donc, j'ai fait ça en parallèle avec mon métier de professeur. Et ça a duré 6-7 ans. C'était marrant, mais j'ai commencé à penser qu'il n'y avait pas de projet. Le risque était de continuer cette vie un peu comme ça, sans un projet vraiment de développement. Et je parle pas seulement de la carrière, mais vraiment de développement personnel. Et j'ai pensé qu'une idée pouvait être de me chercher une place dans une boîte. Mais là aussi, j'ai eu du pot et j'ai trouvé une maison d'édition américaine qui faisait des sélections. J'ai participé et on a été pris, moi et un collègue, et j'ai commencé à faire l'ouvrier du livre, donc le rédacteur.
Dans la maison d'édition?
Dans une maison d'édition américaine, oui, qui publiait en italien naturellement. Mais c'était une multinationale, elle s'appelait Reader's Digest. C'était un truc très important dans les années 70 et 80.
Ah mais je connais, c'est une revue qui faisait des résumés
voilà.
De livres.
Nous on faisait la revue et aussi les bouquins qui étaient des bouquins avec le dos rigide de marron qui s'appelait Condensed Book. Et ça a été vraiment mon Saint-Cyr de l'édition parce qu'on avait un entraînement qui était féroce.
Il me semble que ça a duré plusieurs décennies en fait. Ça a
oui,
été
absolument.
Arrêté il n'y a pas si longtemps.
Ça a été fondé par deux Américains qui justement voulaient lire beaucoup mais n'avaient pas beaucoup de temps. Et ils ont dit, pourquoi pas, on essaye de couper. Le terme en italien et en français, c'était des condensations, mais c'était pas des condensations. Ils coupaient des choses qui retenaient pas importantes. C'était un truc international qui marchait très fort. En 83, la revue dont tu parlais vendait en Italie 1 300 000 copies.
C'était des synthèses d'ouvrages. Et c'est vrai que pour les gens qui n'avaient pas le temps, c'était assez pratique. Et donc, toi, tu participais ou tu rédigeais des synthèses de certains livres, c'est ça?
Non, moi, j'étais à un niveau au-dessus. Mon rôle était d'abord de contrôler la traduction, parce que naturellement, 98% des bouquins étaient américains. Et donc, moi, je recevais la traduction, je la contrôlais, je la travaillais un petit peu selon le style et la direction que donnait notre chef. Et puis, je travaillais sur tous les passages du processus, pas directement, mais j'étais là à tous les passages qui transformaient des feuilles écrites à la machine à écrire en un bouquin imprimé.
Entre-temps, j'ai vérifié, c'est sorti en 1922 pour la première édition. Ça a continué jusqu'en 2009, jusqu'à 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde en 1994. C'est quand même colossal.
Incroyable.
Une success story.
Absolument. Je dois dire que moi, ce que j'ai appris là, c'était sûrement l'édition. J'ai aussi appris une autre discipline, c'était le direct marketing. Et là, c'était formidable. Reader's Digest avait les adresses et plein de données de 18 millions de familles italiennes. Avec l'informatique des années 70 et 80, ils étaient capables de vendre n'importe quoi. Mon travail était de faire l'ouvrier du livre, mais ma marotte était d'interviewer à tous les rois ou les reines de l'équipe qui étaient les product managers. De temps en temps, je demandais la permission de participer à des réunions. J'écoutais, je prenais des notes, je trouvais ça fantastique.
Donc, tu as appris plein de choses sur le marketing avec cette expérience qui a duré quelques années.
Oui, c'était du marketing difficile et très coûteux parce que tout était imprimé. Maintenant, le direct marketing avec Internet, c'est un problème d'analyse de big data, mais ça coûte plus que dalle. Là, quand tu envoyais des tests, c'était des tests imprimés qui étaient envoyés par la poste, donc des coûts extraordinaires. Et donc, la capacité de prévoir le résultat et de tester de façon de plus en plus détaillée, et c'était vraiment un art. Le problème était que, comme ouvrier du livre, j'étais vraiment mauvais. J'aimais bien l'édition, mais probablement le rédacteur n'était pas mon métier naturel. J'ai cherché des alternatives et j'ai trouvé une boîte qui, pour un an, m'a fait faire l'éditeur. Et là, j'ai découvert un truc qui est resté ma grande passion, c'est le management. Moi, j'étais l'éditeur de management d'une, disons, moyenne maison d'édition plus technique, genre Francis Lefebvre. Donc, légal, fiscal, métier extraordinaire, mais qui a duré trop peu parce que cette boîte a décidé de faire un quotidien économique et financier. Il y en avait déjà un à ce temps-là, mais ils ont décidé d'en faire un autre. Et ils nous ont mis à faire ce travail que personne ne connaissait. Travailler dans la presse, c'est un métier complètement différent. Et donc, j'ai fait mon entrée dans le métier du marketing des quotidiens. Le quotidien a foiré presque tout de suite. Le plus grand journal, beaucoup plus grand que les Échos, en Italie, m'a appelé. Ils cherchaient un product manager qui devait avoir une sensibilité éditoriale. Et ils m'ont dit, si vous voulez, c'est pour vous. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas, c'est intéressant. Et j'ai passé 11 ans, pas seulement à faire ça, mais à faire plein de travail dans ce petit groupe qui a commencé à pousser, disons, 2 ou 3 ans après que je suis rentré.
Tu parles beaucoup de chance, mais aussi de rencontres, finalement.
Énormément de peau.
Et du coup, comment tu es arrivé à devenir responsable de Yahoo dans le sud de l'Europe ?
À un certain moment, j'étais devenu directeur éditorial de 3 maisons d'édition qui étaient contrôlées par ce quotidien. Je travaillais avec 150 personnes, j'avais 4 cadres supérieurs qui travaillaient avec moi, mais évidemment, c'était pas assez. J'ai pas été viré parce que quand même le travail a été fait, mais ils pensaient qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'un peu plus costaud qu'ils ont pris. Ça a été un grand cafard, mais ça a été un coup de peau incroyable. Mon chef m'a dit, écoutez, Internet, ça vous dit quelque chose ? C'était 95.
C'est vraiment le début, ça.
Oui, c'était le début. Et je lui ai dit, oui, un petit peu, j'ai un modem à la maison, mais pour télécharger la South Asian Financial Review, il faut toute une nuit. Donc, c'est un truc un peu bizarre. Et il m'a dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui prenne ça. Je lui ai dit, mais moi, je piche que dalle de l'informatique, etc. Et lui, il m'a regardé parce qu'il était un peu méchant, mais il était très intelligent. Il m'a regardé et en souriant, il m'a dit, si tu comprends, moi, je comprends. Et je me suis retrouvé à coordonner ce petit groupe fait par des informaticiens, des journalistes, etc. Ça nous a littéralement explosé sous les fesses. Parce que le marché attendait ce genre de capacité d'être sur le changement d'une loi, sur le changement des instructions pour appliquer la loi, etc. Et on a fait vraiment un tonnerre de Dieu. On a bloqué 2 ou 3 fois le serveur, comme ça on les a obligés à prendre des serveurs extérieurs, parce que les gens étaient devenus complètement fous. Et ça aussi, ça a été une grande tristesse qui s'est transformée dans un coup de fil par un des headhunters. C'était un executive search. Et il m'a dit, moi j'ai un client international qui veut arriver en Italie, est-ce que vous serez intéressé ? Et j'ai dit, oui, pourquoi pas. Et ce client était Yahoo. Il cherchait un directeur pour l'Italie et ce métier s'est transformé 2 ans après en directeur du Sud-Europe. Parce que pour les Américains, la Grèce et la Turquie, tout le monde sait qu'ils s'aiment énormément, c'est la même chose. Puis surtout, les fondateurs de Yahoo étaient des Californiens, donc pour eux, le vrai monde, c'était l'Asie. Enfin, ça a été une expérience extraordinaire.
Et par la suite, je crois que tu as travaillé pour British Telecom.
Oui, Yahoo était un peu cohérente avec ce que j'avais fait dans le journal. Chez British Telecom, c'est peut-être la place qui a été la plus proche du métier de coach. J'ai été pris par le PDG, apparemment pour faire le directeur des relations extérieures. Donc les relations avec le gouvernement, les agences de contrôle, etc., etc. Mais en réalité, lui, il avait besoin d'un advisor. Un conseiller, un sparring partner, enfin un type sur lequel il pouvait essayer, il pouvait raconter des trucs qu'il n'avait pas envie de raconter aux autres membres du conseil de direction, etc., etc. J'ai mis un peu de temps pour comprendre pourquoi, quand je voulais faire le directeur des relations extérieures, il me disait « oui, d'accord, mais on en parle après ». Et il me posait toujours des questions sur deux autres trucs. Et oui, je suis un peu buté, mais enfin, j'y arrive à la fin. Et j'ai compris que ce qu'il voulait, c'était autre chose. Et là, j'ai commencé à raisonner un peu sur comment est-ce que je pouvais soutenir, renforcer, professionnaliser cette histoire. Un petit détail que j'ai oublié de raconter. Quand j'étais au journal, j'ai fait le marketing pendant quelques années. Mais après, j'ai fait 2 ans et demi un métier que personne ne voulait faire parce que justement, le gars dont je te parlais était vraiment terrible. Et j'ai fait son assistant pendant 2 ans et demi. L'assistant n'était pas son secrétaire, mais c'était un gars qui l'aidait à faire beaucoup de choses. En plus, moi, je connaissais bien le secteur des quotidiens, puisque j'y travaillais le soir, je lisais les quotidiens internationaux, je regardais les bouquins qui parlaient du marketing des quotidiens. Lui, il savait que dalle parce qu'il arrivait d'un autre secteur. Et donc, j'étais un peu aussi son petit entraîneur au début. J'étais vraiment son assistant, donc je me chopais n'importe quoi. Des choses stratégiques, genre le travail avec McKinsey sur le plan stratégique de la boîte. Et là, j'ai vu que le monde n'était pas blanc et noir. J'ai vu les grisailles du pouvoir. Et ça, ça a été le premier coup, mais je l'ai oublié. Quand j'ai fait l'autre métier, j'avais 47, 48 ans, j'étais déjà plus mûr. Ce truc est ressorti avec la question que je te disais avant, c'était comment est-ce que je peux faire ça de façon plus sérieuse que tout simplement le feeling, le bon sens, l'intuition, etc. Et là, j'ai commencé à m'approcher d'abord au mentoring. J'ai fait un peu de mentoring interne avec British Telecom, qui est une boîte anglaise et qui, sur ces choses, était très sérieuse et très attentive. Et quand cette histoire est terminée, pratiquement 10 ans après, je me suis dit que peut-être que le coaching pouvait être une alternative intéressante.
J'entends aussi, Alessandro, finalement, que dans tes différents jobs que tu as eu précédemment, il y avait soit le lien au texte, aux mots, au sens, soit, un peu plus tard, le lien vers transmettre les mots et transmettre le sens.
Oui, absolument.
Il y a quand même une constante.
Absolument. Là aussi, j'ai fait, pour ce PDG, énormément le ghostwriter. J'étais son network relationnel.
J'entends aussi qu'il y a beaucoup d'empathie chez toi, parce que pour capter le style qui convient à ton patron de l'époque, il faut avoir cette capacité de sentir quel est le champ sémantique, quels sont les mots qui lui sont propres, et pouvoir les approprier.
Je ne devrais pas dire oui, parce que tu m'as fait un grand compliment, et donc je devrais dire mais non, c'est pas vrai, mais oui. Et de nouveau, je te rappelle que mon passe-temps préféré était écouter. On voyageait en bagnole, il parlait au téléphone et moi j'étais là, apparemment je dormais, mais en réalité j'écoutais et j'enregistrais tout.
Un peu comme une éponge quoi, tu t'appropriais son style.
Ouais.
Quoi.
Mais j'ai fait ça beaucoup de fois.
Ça veut dire qu'au fond, quelque part, tu avais déjà en germe ces compétences plutôt utiles hein, dans un autre contexte et avec un autre cadre. Mais pour le coach, c'est indispensable d'être capable d'écouter.
Naturellement. Le coach écoute et dans ma signature, j'ai écrit « listener ». Pour moi, l'écoute était fonctionnelle. En réalité, l'écoute, comme dit Shine, qui est un de mes auteurs préférés, est quelque chose de plus. C'est dire à quelqu'un d'autre « je suis là pour toi ». Et ça peut se faire seulement avec l'écoute. Donc moi, j'ai commencé avec l'écoute, comme tu l'as appelé, parfait, l'éponge. J'absorbais plein de trucs. Mais à mon avis, ça doit être quelque chose que j'ai quelque part dans le DNA. Parce que moi, j'ai appris à jouer de la guitare. Je sais pas lire les notes. J'ai eu le pot d'avoir quelqu'un qui m'a dit « Écoute, ça, c'est une pentatonique, mais quelque chose d'un peu lent, genre du blues, et puis essaye de jouer là-dessus. » J'avais 16 ans et j'ai jamais pu arrêter. Donc moi, j'ai appris de la guitare en écoutant et en jouant avec, dessus, tous les grands guitaristes.
Presque à l'instinct, quoi.
Oui, naturellement, au début, c'était pas comme ça. Maintenant, je suis devenu plus rapide, surtout le blues des années 60, 70, anglais et américain. Donc, c'est très limité.
Je trouve que c'est assez emblématique de ton parcours parce que tu as eu des invitations à mettre le pied à l'étrier sur des domaines que tu pouvais potentiellement apprécier, mais dont tu n'étais pas expert. Non. Tu relèves à chaque fois le challenge, ça se passe bien, et tu légitimises finalement a posteriori la confiance qu'on a mis en toi et t'apprends un nouveau truc.
Oui, ça ne veut pas dire que j'ai pas fait des conneries, hein. J'en ai fait plein, j'ai raté des trucs, mais oui, ça a été comme ça. J'ai hâte de l'entendre dire, oui, mais c'est comme ça, oui, c'est vrai.
Alors, vu que tu as une expérience business assez variée, est-ce que tu pourrais nous partager quel regard tu portes sur le management aujourd'hui ? Et aussi parce que tu es coach depuis un certain nombre d'années et que tu as accompagné bien évidemment des top managers, j'imagine.
Je ne suis pas le coach qui dit « moi je suis un top executive coach ». Moi, les premiers gars qu'on m'a fait coacher, c'était des sous-directeurs de librairie d'une boîte importante à Milan. Et c'était des jeunes gars qui étaient très compétents, mais qui n'avaient pas trop encore la capacité de gérer d'un côté le client, de l'autre les collègues. Mon rêve, c'est de faire du coaching aux réceptionnistes.
Et ça aussi, je trouve c'est intéressant parce que, y compris dans tes différents emplois, il y a un besoin d'être quand même proche d'un certain pragmatisme.
Absolument. Et à mon avis, ça, c'est un des grands problèmes que le coaching... Il n'y a pas moyen de faire parler la souffrance de l'infanterie, les employés, etc. Je les appelle l'infanterie. Et moi, je m'appelle un officier d'infanterie. Je suis pas un corps d'élite. Moi, je suis orgueilleux d'être un ex-officier qui a commencé comme un troupier, quoi. Mon petit point de vue, c'est qu'il faut jamais oublier que les personnes qui travaillent, je dis une banalité énorme, mais une vérité aussi, ils travaillent. Ils en ont rien à foutre de tout ce que tu ajoutes. Ils travaillent, ils ont beaucoup de problèmes parce que, par exemple, la population féminine, naturellement, n'a pas seulement ce travail-là. Elles ont leur famille, elles ont les parents. Nous sommes une population ancienne, donc il y a toutes ces interactions qui, naturellement, tombent toujours sur les filles, en général. Et donc, quand tu arrives en disant non, il faut changer, il faut se développer, c'est mauvais, tu vois. Totalement en bonne foi, hein, attention. Tu tires sur l'ambulance. Le management aujourd'hui, naturellement, a été bouleversé parce qu'on a passé tous ensemble et aussi dans une situation de énorme fatigue, tristesse et sens de oppression. Moi, j'ai jamais vu un truc comme ça, même avant le Covid. Le Covid a naturellement augmenté ça. Mais le sens d'impuissance d'un côté et de l'autre, de personnes qui te demandent de plus en plus des choses impossibles, à mon avis, ça finira par craquer. Moi, j'ai lu un bouquin que j'ai pas eu le courage de terminer parce que c'était terrible. C'est un bouquin du professeur Pfeiffer, qui est un sociologue des organisations américaines. Le titre est « Dying for a paycheck ». Mourir pour une paie mensuelle. Et je te dis seulement un chiffre. En Chine, selon l'Organisation mondiale de la santé, toutes les années, il y a 1 million d'employés qui meurent pour le stress et toutes les maladies liées au contexte.
Ah oui, ça fait froid dans le dos quand même.
Oui, ça fait froid dans le dos. Même une personne fait froid dans le dos. Mais quand tu lis 1 million, tu dis, mais non, il y a quelque chose qui s'est coincé. Je ne sais pas quoi, je vois seulement ce qui m'arrive dans les projets de coaching. Des personnes fantastiques, des soldats disciplinés, motivés, qui petit à petit, ils s'éteignent. Je te dis, j'ai pas de solution. Moi, j'ai vécu dans un temps un peu différent. Et je me sens vraiment toujours avec beaucoup de peau. Mais ce que je vois aujourd'hui de personnes que j'aurais admirées vraiment dans toutes les périodes, les voir mal fichues comme ça, c'est moche et c'est triste. Et en tout cas, c'est un problème. Les grandes organisations sont allées un peu au-delà de ce qui est humain aujourd'hui.
Il semblerait en tout cas que les lectures que tu as ne donnent pas un avenir très optimiste sur le management.
Le management est quand même quelque chose d'essentiel. Ça me fait marrer parce que beaucoup de métaphores du management sont prises soit de l'armée, soit des sports. Malheureusement, les sports et l'armée ont des temps complètement différents. Parce que quand tu as une partie de n'importe quel sport, tu as la préparation, tu as la partie, et puis après, tu as, disons, l'analyse de la partie, l'analyse de la performance. Quand tu es dans une boîte, tu es toujours dans ta partie. Tu n'as jamais le temps de faire une analyse parce que tu es toujours pris par 50 000 choses contradictoires, entre autres. Ça, c'est le management. C'est survivre à cette espèce de pression incroyable. Ça devient le vrai management. Des chefs arrivent à freiner un peu cette folie, à construire un monde peut-être un peu moins dingue dans lequel les personnes réussissent toujours à donner quelque chose en plus. Mais c'est un peu rare.
Et comment tu as décidé à un moment donné de sauter le pas et de devenir coach ?
Ça s'est passé pendant une absence de coup de peau. C'est-à-dire que je me suis pété la gueule en tombant de la bécane. Et j'ai passé 2 mois immobile parce que j'avais une jambe et le bassin complètement fracturés. Et à part les 2 ou 3 premières semaines où vraiment j'étais fou de douleur et de médicaments, après j'avais du temps de lire. J'ai lu Sir John Whitmore, un des codificateurs du coaching moderne. Et j'ai aimé.
C'était en quelle année ça, Alessandro ?
En 2013. Ça commençait, tu sais, comme un petit arbre que tu plantes, il pousse. J'ai lu Edgar H. Schein. J'ai commencé à lire des trucs intéressants qui soudaient ma passion pour les organisations et les personnes qui sont dans l'organisation. J'ai dit, mais c'est pas mal ce machin-là. Bon, naturellement, quand je suis revenu au boulot, j'ai recommencé à travailler. Je pensais sérieusement que ça pouvait être une alternative. Et puis, il s'est passé encore un coup de pot qui se passe de temps en temps dans les grandes multinationales. Je suis sorti de BT avec un package formidable que j'ai utilisé pour m'inscrire dans une école de coaching de style absolument intégral ICF.
C'était une école italienne ?
Oui, une école italienne. Naturellement, arrivant après 30 ans de faire l'officier, j'étais le pire des élèves parce que quand quelqu'un s'asseyait devant moi, il disait « Alors moi, j'ai ce machin-là. » En 20 secondes, j'avais plus ou moins une solution. Et je lui disais, écoute, mon vieux ou ma vieille, moi, je ferais comme ça, naturellement. Tu peux t'imaginer, la maîtresse est horrifiée, quoi.
Effectivement, il faut peut-être rappeler que le coaching, c'est pas du conseil. Donc là, tu étais en posture qui n'était pas la bonne.
Absolument. Vraiment la mauvaise. Ce qu'on appelle aujourd'hui la posture haute, ça marchait parce que les gens étaient très contents, mais c'était pas du coaching. Et donc là, j'ai commencé à travailler là-dessus petit à petit. L'éléphant a bougé un petit peu, quoi.
Donc, il a fallu désapprendre un réflexe que tu avais.
Oui. Le petit problème, c'est que ça ne peut pas marcher. Si tu l'as accompagné à trouver des solutions, il les trouve aussi dans les moments les plus terribles. Et sinon, c'est ta faute.
Qu'est-ce que tu retiens de cette formation ?
Je retiens un grand défi qui était de ne pas oublier d'où j'arrivais, mais d'adopter aussi des nouvelles techniques, des protocoles, des méthodes. Ce qu'on me reprochait souvent, c'est que tu as bien appliqué la méthode, mais tu n'as pas mis ton cœur. Alors, je ne peux pas dire que je suis un musicien amateur. Mais pour mettre mon cœur dans quelque chose que je joue à la guitare, ben, faut que je travaille énormément. Et donc, il y a cette manie de la part des écoles, d'un côté, d'imposer des méthodes, et de l'autre, de te dire, oui, mais t'es pas assez bon parce que tu mets pas assez ton humanité au service de ces méthodes. Il faut du temps.
Et de la pratique.
La pratique, du temps, de l'entraînement. Voilà. On a oublié ce que ça veut dire s'entraîner.
Tu coaches en français, en anglais et en italien, Alessandro ?
Oui.
Et quelle différence fais-tu dans l'accompagnement selon la langue dans laquelle tu pratiques ?
À mon avis, la vraie différence est entre la ligne Maginot. C'est-à-dire que France et Italie, il y a des différences, mais elles ne sont pas aussi importantes. La grande différence, c'est avec la culture anglo-saxonne. Alors là, c'est difficile. C'est plein de trous qui sont un peu déguisés, donc tu tombes dedans en souriant. C'est une question de culture.
Tu pourrais expliciter un peu plus les écueils.
Le monde anglo-saxon, qui est un monde formel, un monde dans lequel le blanc et le noir sont la règle. T'es parti du problème, t'es parti de la solution. Il n'y a pas de gris. Maintenant, ils ont découvert que ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, ils sont passés totalement de l'autre côté. Une espèce de culture du nombril de l'univers. Être au moment, s'ouvrir à l'autre, avoir de la compassion qui est intraduisible dans le langage européen parce que ça fait tout de suite de la pitié et la pitié n'est pas quelque chose d'agréable à présenter. Un autre truc, c'est le energy management. Je sais que je passe pour un con, mais la première fois que j'ai entendu ça par une collègue, j'ai dit, ben voilà, c'est parfait. J'ai jamais pu parler du business des utilities. Et donc, je vais trouver une collègue qui me raconte un peu ce qui se passe dans une boîte genre l'EDF ou plutôt comme ça, parce que c'est un business fascinant. Et elle parlait du energy management, de sa propre énergie.
C'est les subtilités de sémantique.
Voilà. Et puis, cette obsession pour inclusion, la diversité, mais qui est naturellement plus que indispensable dans un monde injuste. Mais qui devient une obsession, et surtout une obsession dans laquelle la diversité a un aspect qui n'est même plus idéologique. Il est doctrinal. C'est un peu comme du catéchisme. Par exemple, un des grands problèmes des boîtes, c'est la diversité, mais surtout la diversité des points de vue. Alors, elle peut être accrochée à une diversité de genre, une diversité, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'une boîte doit apprendre à développer une intelligence collective, comme dit un de mes maîtres, Michel Moral, qui est basée sur la diversité. Mais c'est la diversité parce que tu as des opinions différentes, des opinions qui, avec un peu de peau, peuvent devenir innovatives, peuvent sauver la boîte de temps en temps. Ils ont l'obsession de la diversité idéologique. Alors aujourd'hui, on ne peut plus dire, par exemple, « personne colored ». Ben, il faut dire « people from colors ». Ils passent leur vie à définir ces machins-là. Donc, coacher avec le monde anglo-saxon est vraiment compliqué. Même quand ils parlent entre eux, un Anglais parle avec un Australien, eh ben, ils ont des problèmes à se comprendre. Donc, il y a vraiment un thème de culture qui rend, si tu veux, le défi extraordinairement fascinant, mais aussi dangereux, en bonne foi toujours. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas.
Il me semble que tu es en cours de formation chez Coaching Supervisor Academy à Londres. Et donc, tu as choisi pour devenir superviseur une école anglaise en conscience de ces difficultés propres au coaching en anglais.
J'ai voulu ce défi. Il y a sûrement le fait que je sentais qu'il y avait un monde important que je devais commencer à connaître. Mais de l'autre côté du rideau, si tu veux, en vivant une expérience plutôt intense comme celle de CSA, parce que elle est plutôt dure comme école, et surtout le fait de passer du temps avec ses 25 collègues. On est deux Italiens, mais le reste est anglais, canadien, indien. Naturellement, la culture est essentiellement anglo-saxonne. Il y a deux filles qui sont de culture française.
C'est intéressant aussi, finalement, dans ton parcours de coach et de superviseur, cette envie d'être toujours dans le multiculturalisme et en tout cas dans une vision assez globale.
Oui, oui. Moi, ce que j'ai senti en faisant les interviews préliminaires, c'est qu'il y avait aussi une dimension qui était totalement différente de ce que moi, je pensais d'être. Target-driven, obsédé par les résultats, tu vois. Et un monde qui avait quand même fait des pas en avant dans l'intégration de cultures. Et donc, chez CSA, j'ai eu l'intuition d'un monde qui était beaucoup plus compliqué du monde que moi je pratiquais, proche à l'ésotérisme.
Ce que j'entends, c'est qu'il y a une approche holistique dans cette école, hein, Coaching Supervisor Academy à Londres, qui t'intéresse et qui t'ouvre un champ de conscience un peu différent.
Absolument. Mon style de coaching a sûrement évolué. J'ai commencé à accepter ce qu'un auteur fantastique appelle le fait de se concentrer sur la personne et pas sur le problème. Et ça, c'est une révolution, pour moi, hein.
Alessandro, à présent, je te propose d'écouter ton choix pour faire une pause musicale dans notre entretien et nous en parlerons juste après.
Most every night, but now I might be mistaken.
Il s'agit de Lagrange, qui est une chanson du groupe texan ZZ Top, single extrait de leur troisième album studio, Twess Ambwess, datant de 1973. Pourquoi ce choix, Alessandro ?
Je pense de Lagrange la même chose que je pense du coaching, et là aussi je vais me faire pas mal d'amis là-dessus. It's only rock and roll, mais je l'aime. Et le coaching est seulement du coaching, mais je l'aime à la folie. Ce morceau est le morceau qui me fait vraiment décoller comme un avion. Et j'ai du mal à rester attentif parce que quand tu joues dans un groupe, tu dois écouter aussi le joueur de basse, le batteur, donc tu peux pas les paumer. Il se passe quelque chose en moi. Lagrange, pour moi, a été un flow. Si on devait me demander, mais toi, quelle est la musique que tu aimerais avoir fait? Je pourrais répondre, je sais pas moi, les cadres d'une exposition de Moussorski, le boléro de Ravel, je sais pas, des trucs comme ça. Mais si je suis sincère avec moi, c'est Lagrange.
Qui reste un des plus grands succès du groupe ZZ Top, hein, ceci.
Ah oui, oui, c'est leur signature.
Et tu la joues à la guitare, ça.
Oui, naturellement. Pas aussi bien que maître Billy Gibbons, mais oui, on la joue presque à la fin de nos concerts. Et donc j'ai déjà dans les jambes et dans les doigts 1h30, 2h de musique. En ce moment-là, c'est comme si on faisait une injection de doping. Je sens plus que dalle. Je m'envole, voilà, je m'envole.
Si on revient maintenant sur la supervision, moi j'ai presque envie de faire un parallèle avec cette dimension de musicien très spontané qui d'instinct va jouer, travaille, répète, etc. Il y a cette dimension quand même de partage dans ta pratique. Est-ce que c'est le cas aussi dans la supervision ?
La supervision est le partage. Mon idée, c'est que la supervision doit générer le flow dont je te parlais avant. Et ça, c'est un peu ton métier de superviseur. Alors, naturellement, le superviseur, il fait trois trucs. Il aide son supervisé à se sortir des dilemmes éthiques ou des dilemmes, disons, pratiques. Il aide à trouver une solution à des problèmes qui sont compliqués. C'est un processus chimique. C'est un peu comme la mayonnaise. De temps en temps, ça marche. De temps en temps, ça marche pas. C'est la génération de cette incroyable union. C'est aussi la relation entre toi et ton ou ta supervisie. Sinon, la mayonnaise ne monte pas.
Et du coup, tu supervises en anglais, en italien, en français, dans les trois
oui,
langues ?
Oui, j'ai une dizaine de supervisies. Il y en a 4 qui sont italiens, 2 sont belges, donc je fais le français. 1 est brésilien, mais il ne parle pas l'anglais, donc on parle en français. 1 autre est chilien et il parle seulement l'espagnol et mal l'anglais, donc on essaie de se balancer sur l'anglais. Et puis j'ai eu 2 merveilleuses expériences avec un gars en Indonésie et une fille qui habite Singapour. Et là, naturellement, c'est l'anglais. Ce que tu apprends, c'est que la langue et la culture sont énormément liées à ta capacité d'interpréter les besoins et d'accompagner ton supervisor. Ça change énormément. Par exemple, en Asie, la formalité est vraiment extrême. J'ai la chance d'avoir cette fille qui est aussi une psychothérapeute, entre autres, qui me balance ses vidéos de coaching. Mais elle ne m'ouvre pas un muscle, hein, rien. Je les regarde avant notre session de supervision, et puis on discute ça en session. C'est un choix qu'elle a fait, et moi j'y trouve ça extraordinaire, parce que, tu vois, les autres te racontent, tu les accompagnes dans leur compte.
Et dans leur compréhension de ce qu'ils ont vécu, alors que là, voilà. Tu as un enregistrement froid et neutre là, qui va te permettre de tout voir.
Oui, en plein Covid, j'ai été appelé par une banque, et j'ai fait 18 séances de shadow coaching. Le shadow coaching, c'est tout simplement, tu assistes à des actions de ton client dans son contexte. Mais là, c'était plus compliqué parce que là, c'était accompagner un super cadre avec son team en virtuel. Donc, c'était un machin de 3 heures. Tu faisais 45 minutes dans lesquelles tu le réchauffais un peu. Tu lui demandais avec ce meeting, qu'est-ce que tu attends? Quelles sont tes prévisions? Où est-ce que tu veux arriver? Et puis, tu passais le meeting avec lui dans lequel lui te présentait, mais après, tu disparaissais. Donc, tu enlevais le vidéo et la voix. Et tu prenais des notes. Je sais pas moi, 20 pages de notes. En rouge, les dynamiques et en bleu, les contenus, si tu veux. Dans beaucoup de ces séances, les notes rouges étaient supérieures, simplement parce que les contenus étaient incompréhensibles, parce qu'on parlait de finances, de risk management, de trucs énormément compliqués. Mais à la fin de tout ça, tu avais ton heure de coaching dans lequel tu parlais avec lui en lui posant des questions très simples. T'es content? T'es pas content? Comment ça s'est passé? Et à la troisième, quatrième question, c'était la chose la plus intéressante, la plus marrante, c'est que lui, il te disait, écoute, je vous ai tout dit, vous m'avez vu, maintenant dites-moi. Et donc, tu faisais un peu l'adjudant de la Légion étrangère, parce que c'était des gars qui avaient 300 personnes, il y en avait un qui avait 1400 personnes, un autre qui en avait 800, donc c'était des généraux, tu vois, des personnes importantes. Tu faisais tout simplement des choses très subtiles, en raisonnant avec lui sur ce qu'il avait voulu faire et qu'est-ce qu'il avait fait.
Alessandro, c'est presque à mi-chemin entre le coaching et la supervision. Tu les as aidés à prendre de la hauteur, à faire du méta sur leur voilà. Pratique de l'animation d'équipe.
Voilà. Malheureusement, ma seule culture de la supervision était 2 ou 3 live seminars avec Michel Moral et la lecture de ses bouquins. Je suis pas allé chez CSA pour devenir superviseur. Je suis allé chez CSA parce que j'avais autour des 1 milieu d'heures de vol. Et je sentais que j'avais besoin de passer des moteurs turbo-héliques aux moteurs à réaction. Je sentais que je devais pousser encore ma croissance vers quelque chose d'autre, un défi important.
L'envie de te challenger, donc.
Oui, mais surtout l'envie d'aller voir d'autres trucs encore plus profonds, si tu veux. J'ai découvert deux choses importantes. La première, c'est que j'adore faire le superviseur. Et ça, je sais pas si c'est pas la faute au fait que j'ai fait le professeur avant, donc c'est pas bien. J'ai la mauvaise posture, mais enfin, ça fait rien. Je vais essayer d'améliorer ça. Mais la deuxième, c'est que j'ai compris que probablement, en dessous de la ligne Maginot, donc si tu veux, si tu coupes la France à moitié et tu passes au sud, il y a, à mon avis, une remontée d'un peu de questionnement autour du coaching à certains niveaux. Le cadre supérieur, donc ce haut niveau de personnages qui contrôle une zone complète de l'Italie, une unité de business complète d'une banque de 55 000 personnes en Italie, pareil aussi un peu en Espagne, ils en ont rien à foutre du coaching vu comme le truc entre le training, l'adjudant de la Légion étrangère ou au contraire le conseil. Parce que ils te disent, si moi je suis là, je suis encore là et personne ne m'a viré, c'est parce que je fais bien mon métier. Donc quelqu'un qui arrive en me demandant, mais vous devez changer, vous devez embrasser le changement, tous ces machins à la consultant, ils me disent, moi j'en ai ras-le-bol.
Ça me rappelle ce que tu m'avais dit dans l'entretien préparatoire, c'est que les coachs passent trop de temps à expliquer ce qu'est le coaching et pas assez à en faire, quoi.
Mais oui, c'est ça. Quand tu leur dis, mais écoutez, moi, je suis pas là pour faire ça, vous avez jamais des pensées, vous êtes toujours sûr que tout ce que vous faites est bien. Est-ce que vous avez envie de partager des doutes? Je parle de nouveau de gars ex-McKinsey, enfin, des gens de niveau, hein. Alors, ils te regardent et en même temps, ils veulent pas te le dire, mais tu comprends très bien que oui, naturellement, ils ont des doutes. Ils dorment mal souvent la nuit parce qu'ils aimeraient partager des choses qu'ils font et qui ont des influences incroyables sur la vie des personnes, sur les résultats, sur leur vie, sur la vie de leur famille. Alors, pour moi, la supervision, c'est ça aussi. C'est de changer, si tu veux, de posture ou d'en adopter une encore plus naturelle dans laquelle t'es là, mais t'es pas là. Je les invite à réfléchir sur des trucs dans un contexte absolument blindé, dans lequel il ne peut rien se passer. Ils peuvent dire n'importe quoi, parce qu'il n'y a personne qui leur dira « ben vous savez, vous êtes un vrai salaud », ou plutôt « ah ben là, vous avez bien fait ». Ils n'en ont rien à foutre, parce qu'ils sont super payés, ils ont des super bagnoles, ils ont des super secrétaires. Donc pour eux, la confirmation de leur valeur est partout. Il y a un conflit d'arrogance. Il y a l'arrogance intellectuelle et de nouveau en bonne foi du coach qui est là et qui leur dit « Eh ben voilà, si je suis là, c'est parce que votre 360 degrés est comme ça et puis la boîte va évoluer, il faut plus de partnership, etc. » Mais là, c'est des gars qui gagnent 1 million d'euros par an. Ils te regardent, ils disent « Mais qu'est-ce que vous menez à me marcher sur mes plates-bandes ?» Même si quelqu'un vous envoie de la direction. Naturellement, c'est une question de chimie. Hein. En français, on disait des atomes crochus. De temps en temps, ça arrive, de temps en temps, ça n'arrive pas. Bon, ça, c'est un peu le métier. Mais ils aiment bien avoir un endroit dans lequel il y a quelqu'un qui les écoute, les fait parler, et de temps en temps, ils disent « Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça ?» Et là, naturellement, faut faire attention, parce que les pièges sont évidents. De temps en temps, c'est des pièges. De temps en temps, c'est des trucs vraiment en bonne foi. Alors là, ça commence à marcher. J'ai relu Shine qui dit « Quand vous accompagnez quelqu'un, vous avez naturellement le métier de l'accompagnement, mais vous devez vous rappeler aussi qu'il peut arriver que les personnes que vous accompagnez vous demandent de l'aide ou vous demandent quelque chose qu'ils ne peuvent pas savoir. » Alors, ils appellent le prescripteur, qui est un peu comme le médecin, qui dit « Fais comme ça ». Et il y a aussi ce que lui appelle en anglais « information provider ». C'est-à-dire quelqu'un qui a des choses que toi, tu ne peux pas avoir. Et donc, il te les livre. Quel est le défi? C'est de comprendre quel est le bon moment. Et là, là, ça cogne. Que si tu te bourres, le risque, c'est que le gars revient dans sa zone et referme la porte, quoi.
J'entends beaucoup de passion.
Oui.
Un vrai amour du coaching, en fait. Hein.
Je te dis, it's only coaching, but I love it. Je passe beaucoup de temps à penser à ces choses. Après avoir fait le professeur, après avoir fait le manager, une vie complètement différente, une vie qui ressemble plus à celle de l'artisan intellectuel. Ça me nourrit, si je peux me permettre cette métaphore.
Le parallèle avec la musique chez toi me semble assez pertinent. Un domaine de passion, un domaine d'énergie.
Oui, oui, absolument. En plus, tu vois, la musique pour moi est aussi ce que j'appelle, en anglais, c'est Chinese Wall. Moi, j'ai deux Chinese Wall dans ma vie. Deux endroits dans lesquels j'oublie totalement le monde à l'extérieur. Et je me concentre sur le hic et nunc, maintenant. Et c'est la musique et puis la cuisine aussi. Enfin, je fais des trucs très simples, mais je les répète 150 fois, tu vois.
Comme le coaching.
Comme le coaching. Les grands maîtres du judo disaient, tu dois choisir un truc à toi et tu dois le répéter un million de fois. Il n'y aura plus de différence entre toi et ce que tu vas faire. Parce que tu vas être toujours dans ce que tu fais. Et naturellement, c'est jamais fini. Hein.
Oui, c'est un chemin de vie.
Oui, c'est un chemin de vie.
Quels pourraient être les ingrédients qui font un bon coach, selon toi ?
Moi, je suis de plus en plus convaincu qu'un bon coach est quelqu'un qui sait qui il est et sait comment utiliser soi-même dans certaines conditions. Ce qui veut en même temps dire qu'il comprend qu'il y a des situations dans lesquelles, lui, il ne peut pas agir. Et donc, il s'enfuit. Les confiants de ce qu'il est, sans devenir fou, moi, je sais qui je suis et en étant ce que je suis, je fais des trucs parce que je suis cette personne-là. Je te fais un exemple avec la boxe, parce que c'est un truc que j'ai aimé à la folie. Si t'es un peu balèze et t'es pas très allongé, ton style va changer. Tout simplement parce que pour cogner, il faut que tu t'approches. Donc, deux choses, tu dois être un gars qui endure la souffrance et un gars qui apprend aussi à en prendre le moins possible, parce que les coups font mal. Donc, tu vas construire ton style par rapport à ce que tu es. Si tu es un gars qui est allongé, qui a une bonne allonge avec les bras, tu vas faire ce qu'a fait Cassius Clay, ou Mohamed Ali, comme tu veux l'appeler. La légèreté, l'élégance, la rapidité, etc. Et donc, la caractéristique du coach n'existe pas. Il existe seulement sa capacité de comprendre ce que lui est, comment est-ce qu'il est fait, mais dans le vrai sens, qui es-tu, c'est comment tu vas coacher. Et si tu comprends pas ça, eh ben, tu vas continuer à faire un truc moyen, professionnel, parfaito. Tu vas appliquer tous tes protocoles, tous tes machins-là. Mais à mon avis, tu vas jamais arriver là où la vie du coach commence. Là aussi, c'est une question de considération. La ceinture noire de karaté, pour beaucoup, était une arrivée. Et c'est un point de départ. Si tu veux, dans la musique, c'est différent être un virtuose et être un artiste. Dans la guitare, on appelle ça les shredders, des gars qui te placent 50 notes à la seconde et tu vois même pas les doigts qui bougent. Et puis, le grand bluesman qui sait pas lire ni écrire et qui, en trois notes, te fait rebrousser les poils, quoi. Et le pari, naturellement, c'est que en tant que coach professionnel, tu as déjà les éléments pour souder ce que tu es avec, si tu veux, la technique. Mais le problème, souvent, mais ça c'est un reflet de l'inexpérience des écoles, etc., c'est que tu deviens fou sur la technique. Et à force de te focaliser sur ta technique, tu regardes plus la personne que tu as en face de toi, tu la paumes. Simplement, tu la paumes.
Et du coup, avec la multiplication des écoles et des formations, le nombre des coachs augmente. J'imagine que c'est la même chose en Italie.
Tu veux un petit nombre ?
Ouais, dis-moi.
En 2018, un collègue à moi qui est un ingénieur a compté sur LinkedIn en Italie 40 000 profils avec le mot coaching à l'intérieur. Donc, c'est énorme. Le problème, c'est qu'en 2020, il a refait le même exercice et ils sont montés à 55 000.
Mais ils ne sont pas tous coachs professionnels. Hein,
Mais non. Ils mettent coach parce que c'est quand même un mot qui est un peu à la une.
Une appellation qui fait vendre et qui, oui, en plus, n'est pas protégée. Vous êtes quand même 60 millions en Italie, donc ça fait quand même beaucoup.
Oui, c'est énorme. Je te dis. Mais en général, c'est des instructeurs.
Est-ce une bonne chose, selon toi, qu'il y ait autant de coachs qui arrivent chaque année formés, on l'espère bien, évidemment, sur le marché ?
Il y a différents affluents de la Grande Rivière. Alors, un affluent, c'est celui des écoles qui est toujours mieux que n'importe quoi. Mais le grand affluent que je vois en Italie, c'est beaucoup de personnes qui veulent changer de vie, veulent changer de métier, etc., qui se réinventent en disant « Mais moi, j'étais l'adjudant-chef chez France Télécom, donc je peux absolument devenir un coach. » Il y a un an, j'ai rencontré un ami à moi qui est un grand professeur en Polytechnique de Milan, qui est un des plus grands experts de réseau de télécommunications, qui m'a dit « Tu sais, je suis devenu le coach du nouveau directeur HR de Telecom Italia. » J'ai dit « Le coach, mais toi, tu es un ingénieur. » Il m'a dit « Bien sûr. » Tu vois, c'est n'importe quoi.
Est-ce qu'il a eu une formation de coach, en l'occurrence ?
Naturellement, non.
Ah oui, d'accord.
Mais à ce monsieur, et je suis sûr qu'il l'a fait très bien, il lui a expliqué comment le marché des télécommunications fonctionnait.
Oui, mais ce n'est pas du coaching, là, c'est presque du conseil sur mesure.
Absolument.
Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut entamer une formation de coach? Est-ce que selon toi, il y a une approche qui est préférable à une autre?
Non. Je suis loin d'être un expert.
Il me semble que tout à l'heure, tu disais que tu avais 1000 heures de vol en termes de coaching.
Oui, mais par rapport à des personnes qui font ça depuis 20 ans, 25 ans, qui ont un peu accompagné une évolution, moi, je me sens encore un bleu.
Quel est l'avenir du coaching, selon toi, en Italie? Et d'ailleurs, puisque tu es président de MCC Italie, est-ce que tu peux nous parler de l'organisation MCC en Italie?
L'avenir du coaching en Italie dépend un petit peu d'une question qui n'est pas italienne. C'est-à-dire que le coaching est le médicament ou le symptôme? Et ça, c'est pas à moi, hein. C'est un gars qui s'appelle Patrick Hobbs, qui est un génie que j'ai découvert très récemment. Et il dit, attention, le coaching est né pour l'incertitude, pour toutes ces conneries, tu sais, le VUCA, tous ces machins anglo-saxons terribles. Peut-être qu'il est arrivé le moment de se poser la question si vraiment c'est le symptôme d'un problème énorme. Alors, ceci dit, en Italie, à mon avis, il y a encore pas mal d'espace de croissance parce que beaucoup du coaching qu'on fait en Italie, surtout sur les teams, sur les groupes, est encore, à mon avis, du training. Parce que la majorité des coachs en Italie arrivent du training, ont intégré le coaching dans leur pratique. Je veux pas être grossier, mais quand j'étais jeune, il y avait les bonnes à tout faire. Et là, toujours avec respect et sans vouloir être mal élevé, mais il y a un peu cet aspect. Donc, la croissance, à mon avis, va devenir quelque chose qui se fait grâce au développement d'une pratique de coaching plus définie, moins training, si tu veux.
Donc, plus professionnel, voilà. Du coup.
Oui, naturellement. En Italie, l'IMCC a commencé en 2016-2017 grâce à une fille extraordinaire italo-belge qui s'appelle Isabelle Alpi. Les Hollandais de MCC sont 4000, les Anglais sont 1800, les Français sont 3000, nous on est 180. Mais il y a un an et demi, on était 62. Alors, à mon avis, les pays que je t'ai cités ont un vrai marché du coaching. En France et en Angleterre, le marché du coaching a une certaine évolution.
Une maturité, tu veux dire ?
Oui, absolument, une maturité. Par exemple, en Italie, on est en train de raconter le coaching d'organisation qui, en France, est une réalité importante. La maturité du marché est énormément différente. En juin, avec les autres associations de coaching professionnels, on a rencontré deux chefs de cabinet des ministères les plus importants pour le plan de renaissance de l'Italie. C'est eux qui vont avoir la gestion de la plupart des fonds. Et on s'est permis de leur raconter à quoi servait le coaching. Ça a l'air de s'être bien passé.
C'est quasiment du soft lobbying.
Oui, c'est du soft lobbying. Ils nous ont dit, pour nous, le changement, c'est seulement le training. Mais vous avez raison, on va commencer à reconsidérer ça. On ne peut pas vous dire si ça veut devenir demain matin. Mais on a compris qu'on a un petit truc à regarder. Si tu veux, quelques messages commencent à passer.
Et du coup, le coaching en Italie, ça s'américanise?
Oui, absolument. La majorité est franchement, même pas américain, je dirais Amerloc. À mon avis, c'est l'histoire, parce que les grandes boîtes payent pour de la formation. Le grand marché est encore celui de la formation. Et nous, on est à un créneau de ce marché. Pareil que maintenant, les gens ne veulent plus aller dans les cours de formation. Ils s'emmerdent. Et ils préfèrent le coaching, mais ce changement n'est pas immédiat, tu vois.
Et en plus, avec une promesse de résultat qui peut ne pas aller dans le sens de l'entreprise.
Là, c'est l'autre problème. Et à la fin, tu n'obtiens jamais ce que tu voulais, mais tu comprends ce que tu peux obtenir.
Exactement. Tu ouvres le champ des possibles, alors que si c'est une formation, a priori, on te met en capacité de faire un job.
Voilà. Un des problèmes des managers, c'est qu'ils ont été formés sur différentes écoles de management. Mais le vrai DNA des managers, c'est un seul. C'est le contrôle. Tu as été formé par l'absence de confiance. Et donc, c'est vraiment compliqué de changer. Quand tu as passé une vie à voir tes chefs expliquer que le truc important, c'est qu'ils veulent dormir tranquille, donc le contrôle. Et en tout cas, le contrôle est exactement le contraire du coaching.
Quel rôle, selon toi, les coachs ont à jouer dans la société en pleine mutation dans laquelle nous vivons?
On nous demande de jouer des rôles infinis. Par exemple, la nouvelle marotte des Anglais, c'est que les coachs doivent devenir les ambassadeurs du climate change. Non, mais t'as idée de parler avec nos cadres supérieurs en disant « Mais dans votre programme, quel est le niveau du climate change ?» La réponse est « Vous voyez la porte où elle est ?» On nous demande plein de trucs. Je crois qu'il faut un peu d'humilité. Et il faut qu'on pense à notre métier comme un métier d'accompagnement. Naturellement, dans une boîte, c'est un peu plus compliqué. Parce que la boîte te dit, oui, accompagne-le. où il veut, mais attention, parce que nous, ça, c'est notre métier. Mais tant que c'est transparent, ça va. Tant que la boîte et le coachee sont d'accord, il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne demanderai pas au coach quel rôle ils veulent jouer, parce que nous, on est quand même des professionnels qui accompagnent.
Je te propose à présent de passer à une interview rétrospective de ta carrière. Quel est l'accompagnement ou la supervision, éventuellement, dont tu es le plus fier ?
Ça, c'est une belle question. Écoute, j'en ai une qui est vraiment le contraire de ce qu'on pourrait s'imaginer. Alors, j'ai eu un cas dans une mission où j'avais 15 coachees, cadre supérieur d'un groupe bancaire. Bon, avec 14, j'ai fait mon honnête métier. Le HR était content, eux étaient contents, leur chef était content, ils ont vu des progrès, donc j'ai fait un bon métier. Il y en a un seul qui m'a pas ouvert la porte. Rien à faire. Il voulait faire des conversations. Moi, je me sentais comme un voleur qui volait de l'argent. J'ai pensé de faire un truc typiquement protocolaire américain, c'est-à-dire retourner vers la personne project manager et lui dire « Écoutez, XZ n'a rien à foutre du coaching. Donc, on arrête. » Et je ne l'ai pas fait. Et ça a peut-être été une des choses de laquelle je suis le plus fier. Parce que je leur ai tiré dessus. Dans un moment très difficile de sa carrière professionnelle, il avait toujours un salaire, toujours une position, toujours la bagnole, mais il n'avait plus de pouvoir réel. Et je lui aurais fait du mal. Et alors, on a continué cette conversation. Elle lui a apporté beaucoup de sérénité, de bien-être. Et à la fin, il m'a dit, tu sais, ce que j'ai apprécié, c'est que tu m'as pris comme ça. Tu n'as pas essayé de changer mon attitude. Tu m'as donné la possibilité d'avoir cette oasis de une heure dans laquelle j'étais bien.
Peut-être que ça a été un ancrage important pour lui dans cette période difficile.
Absolument. Encore, il m'écrit de temps en temps. C'est le truc le plus minable, apparemment, que j'ai fait. Vraiment la faillite la plus incroyable, mais c'est la chose de laquelle je suis le plus fier.
Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as été amené à accompagner un client ?
Alors, je pensais que c'était un thème surprenant, mais j'ai vu qu'après, il y en a pas mal qui ont ce problème. C'est le problème de ces coachs qui sont en bonne foi, vraiment passionnés, avec leur panoplie de méthodes, etc. Et puis, qui se voient fermer la porte sur le nez. Et ils deviennent fous. Ils souffrent. Tonton Shine, qui dit attention, parce que accompagner les personnes, c'est compliqué, parce qu'il y a des pièges. D'un côté, ils te demandent d'être accompagné, de l'autre côté, ils ont pas envie. Et il joue un peu sur les deux côtés. Et ce machin-là, c'est un truc que tu n'apprends pas à l'école.
Oui, il y a le sentiment d'être rejeté, quoi.
Complètement. Peut-être d'essayer de voir quel était le genre de relation qu'ils ont construit. Parce que souvent, et c'est vrai ça, c'est humain, les gens sentent que tu veux les changer. Parce que aussi la boîte t'a dit, mais non, mais ce gars-là, il a des problèmes de relation. Donc t'arrives en disant, mais je vais te sauver, etc., etc. Et c'est le bordel. Beaucoup de gens n'ont pas envie d'être sauvés.
Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi ?
Écoute, je peux te raconter seulement ce que un de mes supervisés m'a dit. Il m'a dit un truc qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit, tu vois Alessandro, la chose qui m'a plu dans notre relation, c'est que tu as des idées très claires et très fermes sur beaucoup de choses, mais tu ne les imposes pas. Et si quelqu'un n'a pas les mêmes idées, c'est pareil, tu les partages. C'est à l'autre personne de décider. Moi, je me suis senti absolument accueilli par toi. Ça m'a fait presque pleurer, oui. Et l'autre, c'est un team coaching. Ils sont 30, mais moi, j'avais les trois cadres supérieurs qui ont pas mal de problèmes dans la boîte dans laquelle ils travaillent. La réunion tripartite s'est passée plus ou moins comme ça. Ce chef, ce sponsor, qui est un type vraiment dur, exigeant, a demandé à la dame qui était le chef du team et lui a dit « Alors, comment ça s'est passé ?» Moi, j'ai vu pas mal de bons signaux. Et cette dame, je l'ai regardé et lui a dit « Tu sais pourquoi ça s'est bien passé ?» Parce que Alessandro nous a fait cadeau de 18 heures de Oasis. Pendant les 6 sessions, on faisait 6 sessions de 3 heures, on a eu la possibilité de s'arrêter un petit peu, de réfléchir à notre travail, à nos relations, au pourquoi on fait les choses. Et ça a été un parcours extraordinaire. Et l'autre, un gars, a dit « Moi, j'ai compris que je faisais partie d'un team. » Je n'avais pas compris au début. Il y avait tout le staff HR déployé là autour de la table. Moi, j'étais en virtuel, naturellement, mais j'ai dit « Merde, s'il voit que j'ai les larmes aux yeux, là, je vais passer pour un… » Ça a été aussi l'occasion de trouver une confirmation de ce que je pense depuis longtemps. Vraiment, la corde est très, très tendue et les personnes qui l'attendent de plus en plus ne s'en rendent pas compte. Nous, les coachs, quand on part avec une mission, on est les personnes les plus heureuses du monde parce qu'on pense, je dis ça un peu en rigolant, mais pas trop. On pense qu'on va sauver des personnes. Mais quand ça tombe dans une organisation, les personnes prennent ça comme un boulot supplémentaire. Dans les grandes organisations, les personnes sont dans une situation très difficile. De plus en plus de travail, de moins en moins de personnes pour le faire, et naturellement, le Covid a empiré, si je peux dire, la situation.
Quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative des coachs? Il se trouve que tu es président de MCC Italie, mais pour autant, quelle a été ta première décision peut-être à l'époque, quand tu es devenu président?
Ça n'a pas été vraiment une décision, ça a été une idée. Les collègues voulaient deux choses, des pilules de sagesse sur le coaching, etc. Et on a préparé une batterie de 22 webinars en un an, qui est énorme, avec des personnages de très bon niveau. Et l'autre chose que j'ai parié était que les personnes avaient envie de se faire prendre la main. Parce que c'était un temps terrible. Déjà, le coach est un métier assez solitaire. Et là, c'était encore pire avec le Covid. C'était des trucs bien à la Boy Scout. C'est qu'on n'avait aucune idée de comment faire ça. Et puis, ça commençait à sortir et ça marche. Toutes les fois que quelqu'un s'inscrit, je lui écris et je lui dis « On est vachement content que tu es avec nous, merci. Est-ce que tu as envie de papoter un peu de notre métier ?» Pour eux, c'est un truc incroyable. Pour moi, c'est « Je me marre ». Naturellement, c'est « time consuming », terrible. Je commence à faire du lien. Ils sont accueillis.
Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours, Alessandro ?
Peut-être que je me suis imposé un peu trop de choses. Et j'ai toujours senti ma vie comme une course continue pour ne pas tomber. Depuis 2 ou 3 ans, je sens que je suis beaucoup plus actif dans mes choix. Et aujourd'hui, je sens que je cours là où je veux courir.
Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet entretien ?
2 choses. It's only coaching, but I like it. Et le deuxième, c'est que nous sommes le meilleur instrument de notre métier. Naturellement, ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'exercer. Mais le truc, c'est comme apprendre à jouer un instrument ou à pratiquer un sport. Tu as les fondamentaux, puis après, tu as toi-même. La fusion de ces 2 choses fait la différence. Ça, pour moi, c'est le coaching.
Est-ce que tu veux nous partager un prochain projet sur lequel tu investis du temps et de l'énergie ?
C'est de décoller en tant que superviseur. Pas seulement de superviseur de coach, mais j'ai mon idée de la supervision appliquée au manager. C'est la reflective practice, c'est l'analyse de la demande. Synthétiser avec la supervision, à mon avis, devrait nous faire un bond en avant dans la qualité de notre métier appliqué de nouveau au cadre supérieur.
Écoutons à présent la chanson que tu as choisie pour illustrer ton parcours.
L'Italia liberata, l'Italia del valzer et l'Italia del caffè, l'Italia derubata colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, preso a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia. L'Italia che non ha paura.
Alors, il s'agit de Viva l'Italia de Francesco De Gregori, qui est un auteur-compositeur italien. Et cette chanson date de 1979. Pourquoi ce choix, Alessandro ?
Parce que j'aime mon pays. Et ça, c'est encore un petit cadeau que j'ai ramené de la France. Les Français aiment la France, mais les Italiens un peu moins. En Italie, la patrie était quelque chose de fasciste. J'aime mon pays parce que c'est un pays de liberté et parce que malgré énormes problèmes, on est encore un pays dans lequel vivre est encore quelque chose qui a un sens.
En tant qu'expatrié, l'amour de ton pays, c'est essentiel, c'est important.
Absolument, oui, oui. Si tu veux, le seul truc que j'ai jamais réussi à faire, c'est un peu de civil servant pour mon pays. Mais enfin, ça fait rien. Maintenant que je fais ça avec MCC quand même, je fais partie d'un parcours de développement.
Et que tu contribues à développer le coaching en Italie.
Oui, oui, absolument.
Merci beaucoup, Alessandro, pour ta participation à ce podcast.
Merci à toi, David. Ça a été incroyable. J'aurais jamais pensé de tenir 2h30.
Je vais synthétiser en 1 heure, en tout cas.
Voilà, mais moi, je me suis vraiment marré. Merci.
Merci beaucoup. À bientôt. Merci.
Ciao, David.
Au
ciao.
Revoir.
Ciao, ciao.
Parcours de coach.
Merci pour votre écoute. Le podcast Parcours de Coach est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et toutes les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes diffusés. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com et n'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos deux podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode.
Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.